Isabelle.
Bonjour, merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je vais enchaîner sur le même thème que mon collègue Paul Arcand parce que je pense que aujourd'hui au Québec, c'est vraiment important qu'on en discute tous ensemble de ce problème de femmes violentées par leur conjoint ou ex-conjoint. Vous avez vu le chiffre ce matin qui nous saute en plein visage. 7 femmes assassinées par leur conjoint en 7 semaines. 7 femmes qui ont tendu la main, ont cherché des ressources, l'ont dit dans leur entourage. Certaines ont même essayé de trouver refuge et pourtant, c'est arrivé quand même. Et aujourd'hui, il faut qu'on se pose vraiment la question, là. Comment est-ce qu'on peut encore justifier le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint par un manque de ressources? Si on est capable d'investir dans un stade de baseball, on peut trouver des moyens pour arrêter cette violence au Québec. Et quand on dit féminicide, je veux bien, là, je suis pas sûre que tout le monde comprenne bien le mot. Ça sonne comme féministe, ça va encore frustrer du monde, ça, qui comprenne pas. Qu'on le dise carrément, un féminicide, là, c'est un assassinat de femmes. Ces 7 femmes ont été tuées par des hommes qui leur en voulaient, qui n'étaient pas capables de considérer la rupture comme un passage de la vie. Et que pour ça, ils s'en sont pris et ont tué quelqu'un. Il y a 14 enfants qui sont orphelins de mère aujourd'hui. Après ça, on va se plaindre que la DPJ a les bras pleins. Vous comprenez, c'est tout est lié. Ce matin, conférence de presse importante de la part de la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, qui était avec la vice-premier ministre Geneviève Guilbeault. Voici un extrait.
Mais donc, cette tragédie qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça comme gouvernement, comme femme, comme gouvernement, comme société. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne peut pas accepter ça et ça doit cesser, cette violence envers les femmes.
On ne peut pas accepter ça. Elle a raison, Geneviève Guilbeault. Je pense que vous ne l'acceptez pas non plus. J'aimerais ça que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez, qui doit être fait. Ça a l'air qu'il y a de l'argent qui dort. Là. Le gouvernement Legault avait dit « on va donner des fonds nécessaires ». Et encore ce matin, Isabelle Charest le dit, j'ai l'oreille attentive du premier ministre là-dessus, qui en fait, paraît-il, une priorité pour son gouvernement. Il faut absolument que ça soit donné, ces fonds-là. Ça a l'air que c'est perdu entre les CIS et les CIUS. Ça ne peut pas être un argument, ça, du tout, du tout, du tout. Les meilleurs pour en parler, bien sûr, ce sont les victimes qui le disent encore ce matin. J'entendais les témoignages dans l'émission de Paul, des femmes qui disent « le système nous aide pas, les victimes ont pas de moyens de se faire écouter ». Le système, il travaille pour les abuseurs, pour les agresseurs et non pour celles qui dénoncent et qui disent qu'elles vivent de la violence conjugale. Ce matin, j'ai envie de vous donner la parole. Vous m'écrivez, bien sûr, à isabelle@985fm.ca. Vous m'appelez surtout parce que je pense que c'est important de vous entendre. Et on est encore à se dire, est-ce qu'on nous croit? Est-ce qu'on les croit, ces femmes-là? Ouais, mais il y a toutes sortes d'histoires. T'sais, on n'a jamais les deux bords vraiment. Peut-être que chacun a ses raisons. Et le contexte de violence conjugale, on dirait que c'est de la violence à part. T'sais, il y a la violence, puis il y a la violence conjugale. On mêle souvent l'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Je haïs la pub qui roule sur nos ondes où ça dit « ma belle amour ». Non, laisse faire l'amour. C'est juste du contrôle. Et ça, oui, elle a raison, la vice-première ministre, il faut que ça cesse. Avec nous, Sophie, qui a été victime de violences conjugales et qui, encore aujourd'hui, continue de vivre dans un contexte où elle se sent vraiment démunie. Séparée en 2012, elle a été victime de la violence de son conjoint psychologique et elle a une fille avec cet homme. Elle a appris hier justement qu'elle venait de perdre la garde de son enfant. Vous allez voir, c'est très complexe, les histoires de violence conjugale. Et Sophie a accepté de nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, Sophie. Je sais que ça prend beaucoup de courage pour parler comme ça à la radio de ce que vous avez vécu.
Oui.
Quand vous voyez tous ces meurtres de femmes des mains de leur conjoint ou ex-conjoint, ce matin, j'ai entendu même Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, dire un contexte de rupture, ou je pense que c'était Isabelle Charest qui disait, le contexte de rupture est un contexte où ça peut dégénérer. Est-ce que c'est ça, vous, qui a fait que ça a dégénéré ou c'était déjà là dans votre couple?
Ça l'a dégénéré avec le temps. Puis le temps que les femmes comprennent que c'est malsain, c'est pas bon, on a déjà été mentalement défaites. On accepte des choses qui ne sont pas acceptables et on en vient à comprendre que c'est normal et c'est vraiment pas ça. C'est tellement pas connu les étapes de la violence conjugale du début jusqu'à la fin, que plus on est comme obligé de se rendre jusqu'au bout des choses, de la violence pour se réveiller. On perd des amis parce qu'ils ne nous comprennent pas. Quand on s'en va à la police, ben on est écouté, mais il y a tout le côté humain dans les démarches judiciaires qui n'existent pas. Mmh. Il faut pas qu'on ait d'émotion au palais de justice. Il faut compter ça les choses froidement. Il faut qu'on soit rationnel. Mais on est complètement perdu. Moi, j'ai perdu mon identité. Je ne suis plus la femme que j'ai été. Et c'est encore valable parce que mon ex-conjoint, il agit encore en violence psychologique. Ça a été très physique en 2012. J'ai quitté avec ma fille parce qu'il brisait ses conditions. Puis on n'en a pas de soutien, pas de soutien immédiat. C'est ça que ça nous prend. T'sais, on a la ligne, là, je vous donne un exemple, le 3-1, 4-1, 8-1, 9-1. Pourquoi qu'il n'y a pas une ligne facile comme ça à composer? T'sais, pourquoi qu'on n'a pas accès à un peu plus de protection? Pourquoi que les policiers n'ont pas des mises à jour sur comment ce que c'est la violence? Un policier qui me dit, ben oui, madame, mais vous restez toujours. Mais c'est parce que je sais pas qu'est-ce que je peux faire. J'ai ma fille à protéger, puis j'ai moi. Tu sais, puis pourtant, là, j'ai fait appel, là, j'ai été demandée à la DPJ de l'aide dans ces années-là. J'en ai pas eu.
Vous avez même été vous réfugier, je pense, Sophie, dans une maison pour femmes à Laval, hein?
Oui, j'ai été me réfugier parce que dans les conditions, il fallait pas que ce soit à moins de 500 mètres de chez nous. Et il était dans 500 mètres, puis il m'a appelé, puis il dit, tu t'en vas où avec ta valise? Il me regardait fuir de la maison. Puis là, t'appelles la police, t'essayes de... Ouais, mais madame, il faut qu'on le voit sur le fil. Parce que à l'une, s'il est capable de... Il est assez effronté pour se présenter jusque-là, il va rentrer chez nous. Puis c'est clair qu'il va me tuer. C'est facile de rentrer dans une maison.
Est-ce qu'il vous l'a dit? Est-ce qu'il vous a dit carrément un jour, Sophie, votre ex, hein, je vais te tuer?
Il a essayé de le faire. Il m'a étranglée jusqu'à temps que je perde conscience, puis il m'a laissée comme ça.
Et ça, là, ça n'a pas été suffisant pour la police ou c'est à cause de ça qu'il y a eu son 8-1-1, finalement, là, son interdiction de s'approcher?
Son 810, c'est parce que 810, j'ai pas été pardon, capable de témoigner parce que j'étais tellement défaite, j'étais tellement déconditionnée que je n'étais pas capable. Puis les policiers n'ont pas poursuivi cette plainte-là, malgré le fait que je n'étais pas la première femme à vivre ça. Il y en avait 7 autres avant moi.
Il y a eu 7 autres blondes ou conjointes avec qui il avait été violent?
Oui, oui.
Aïe, aïe, aïe.
Puis le système de justice n'a rien fait.
Est-ce qu'il était, il est déjà allé en thérapie, Sophie, cet homme?
Lui, il a été en thérapie à Laval, à Choc, mais c'est une session de 1 heure.
1 heure, OK. Donc, il y a affaire pour les ressources envers les hommes violents, hein, d'après vous. Qu'est-ce qui vous aurait aidé et qu'est-ce qui vous aiderait aujourd'hui?
Moi, là, ce qui m'aiderait vraiment, ce qui me ferait vraiment du bien là, pour vraiment changer les choses, ça serait un bracelet GPS pour les retrouver, ces hommes-là, pour savoir où est-ce qu'ils sont, pour les traquer comme ils peuvent nous traquer, nous autres, pour au moins, sur un certain côté, qui nous tue pas. Tu sais, c'est notre vie, là. La femme puis la mère qui sont mortes, là, assassinées. Mais la madame, sa mère, elle a voulu protéger sa fille. Elle est morte, elle aussi. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut faire plus. Dès qu'il y a une accusation, monsieur, bye-bye, bracelet, GPS, puis wow, un instant, là. Il faut que ça soit aussi drastique que ça pour que ça change. Il faut qu'il y ait des peines plus sévère pour que ça change. Il faut que la justice se rouvre les yeux à faire les choses différemment quand ils reçoivent une personne qui a été profondément détruite. Mm. Moi, je vous le dis, ça m'a détruit, ça m'a complètement fucké ce que j'ai vécu. Puis j'ai encore des traumatismes que j'arrive pas à soigner. Ça a mis mon travail en péril, ça a tout mis en péril. J'aurais pu tout perdre. Mais je me suis relevée, j'ai fait des thérapies pendant des années, surtout. Mm.
Et il y a une petite fille aussi là-dedans. Hein? Votre oui. fille qui a aujourd'hui oui. 10 ans, elle oui. a été témoin de tout ça?
Elle a été témoin très jeune de ce que moi je vivais. Tout de suite après moi, après ça, il a fallu que je donne une garde une fin de semaine, mettons, sur deux, je donne un exemple. Puis elle a vécu la violence, elle a vu la violence verbale et physique de son père à l'autre femme avec qui il était après. Puis quand j'ai su ça, il a fallu que j'aille chercher ma fille avec la police, parce que je ne pouvais pas me présenter là tout seul. Avec la police de la région où est-ce qu'on était, puis mon conjoint que j'avais à ce moment-là. Aïe. Parce que j'étais trop terrifiée d'y aller toute seule. Moi, je fais des crises de panique, je fais de l'anxiété, puis quand que ça te prend, t'as plus de contrôle, t'es plus capable de te gérer, tu arrives un peu à faire des choses, mais quand t'es obligé d'agir comme ça, c'est tellement profond que
mais là,
il faut que quelqu'un fasse.
Oui, ce que vous nous décrivez, Sophie, c'est un conjoint, un ex, un homme violent en série, là. Pas oui. juste vous, là. Sept non. autres avant, depuis, votre fille de 10 ans qui est témoin de tout ça. Oui. Et puis on dirait qu'il n'y a rien qui peut forcer cet homme-là à faire plus qu'une heure de thérapie ou essayer de... Fait oui. que c'est bien beau d'entendre... Vous, quand vous entendez les ministres nous dire, c'est notre priorité, le premier ministre François Legault qui dit c'est ma priorité, là, personnellement, je vais y voir... Geneviève Guilbeault, ce matin, qui dit il faut que ça cesse, on ne tolérera pas ça. Vous
ben,
pensez
il
quoi,
faut qu'il
tout
mette
ça?
Des bracelets. Il faut qu'il mette des bracelets, sinon ça ne vaut rien partout. Parce que il faut commencer un peu par en bas du système de justice, tu sais, puis leur faire voir, leur faire comprendre ça, les étiqueter par rapport à ça, puis qu'ils changent leur méthode.
Oui, mais c'est je comprends que même votre, cet homme-là, il continue d'avoir la garde. De oui. Il y a eu la garde de votre fille complète, là, ce que je comprends?
Oui. Parce que moi, ça m'a amené beaucoup de problèmes. Je suis tombée dans la boisson. Parce qu'il a fallu que je donne ma fille, ça a commencé comme ça, donner ma fille à mon agresseur. Fait que mon agresseur, c'est ça, qui connaisse mon adresse. Puis j'ai été obligée par le juge. Fait que,
parce que nonobstant le fait qu'il soit violent, il restait le père de votre enfant, c'est ça?
Oui. C'est mieux que ma fille connaisse son père, même s'il a été 4-5 ans absent, que ma protection et où sa protection.
Ouais,
moi, je suis tombée dans la boisson. Là, à un moment donné, je dis « Oh, c'est trop ». J'ai commencé une thérapie pour m'aider, pour reprendre un peu plus le contrôle, parce que ce qui m'a apporté à bord, c'est la violence physique.
C'est ça. Puis là, mais maintenant, on utilise ça contre vous.
Oui. Oui. Mm. Là, je suis rendue une très mauvaise mère parce que j'ai tombé à terre.
Puis lui, il utilise ça, j'imagine?
Ben oui. Lui, il est très gentil, il est très fin.
Devant la cour, ben oui.
Mais pas juste devant la cour, devant la DPJ.
Oui.
Ça fait que lui, c'est un saint d'esprit, il est parfait, il n'y a pas de problème. La DPJ ne prend pas en compte que ça fait 9 femmes qui bat, même si c'est toutes des 810. Là. Des 810, ça prend l'accord de la personne.
Incroyable.
Ça veut dire qu'il admet son geste, mais il n'y a pas vraiment de conséquences à long terme. Et puis là, après ça, on me dit que je ne suis pas saine d'esprit parce que j'ai peur pour ma fille. C'est sûr que j'ai peur pour ma fille. C'est une fille. C'est une future femme. Ils ne comprennent pas ça. C'est dur. Moi, on m'enlève. On m'enlève ma raison de me battre. Ma raison de me tenir debout. J'ai tout perdu, là. J'ai pas ma fille. Je suis plus rien. J'existe plus. Je pourrais tout perdre, puis je m'en foutrais. On m'enlève ma raison de me tenir debout, puis d'être encore droite, puis de montrer que les femmes, on est capables, puis qu'on peut réussir tout seul, puis... Tu sais?
Sophie, je vous trouve très courageuse. Merci, merci au nom de toutes les femmes qui vivent ça. Merci parce que votre témoignage est global. Je trouve que ça, on touche avec votre histoire toutes les couches et les sous-couches du problème. Là. Puis là, on voit là que ça a des répercussions sur les enfants, que la DPJ fait partie du problème aussi, que oui. Il y a tout un, on le dit souvent, il y a tout un village là. Ça fait quasiment, mais il faut à tout prix arriver à aider les femmes comme vous, Sophie, pour éviter qu'il y en a plein. Là. Les violents en série, il faut arriver à ce qu'ils n'aient pas toujours l'impression de gagner. Puis pas juste l'impression.
Ils sont sûrs de gagner. Ouais. Ils sont sûrs de gagner. C'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois, ils s'en sortent. Puis ça finit par être normal. Fait qu'ils, j'ai pas trop de répercussions. Allons-y.
Ouais. Sophie, merci beaucoup. On va prendre de vos nouvelles. Merci d'avoir pris la parole publiquement ce matin.
Merci beaucoup. Puis il faut jamais que les femmes lâchent. Il faut que les femmes se tiennent debout. Puis qui s'aident entre elles, puis que toutes les femmes, même si elles n'ont pas vécu ça, qui s'aident entre elles, c'est important.
Merci beaucoup, Sophie, de votre témoignage. On vous embrasse fort. Merci bien.
Merci.
Ouf, quelque chose, hein? On va s'arrêter ici. Toutes nos lignes sont pleines. On va vous donner la parole après ceci.
15-20 ans que c'est demandé, les maisons d'hébergement demandent un rehaussement de financement. On l'a fait. Oui, il y a eu des délais. Le rehaussement du financement, il reste deux régions qui n'ont pas eu leur financement de ce rehaussement de financement-là qui aurait dû être fait il y a bien, bien des années. Mais on est en train de finaliser ça.
Ah oui, puis finaliser, rehausser. En attendant, il y a effectivement des millions qui devaient aller aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui dorment à Québec, quelque part, pris entre les CIS et les CIUS. Apparemment, c'est là que ça bloque. C'est ce qu'on savait, en tout cas, au début du mois de mars. Est-ce qu'il y aura plus d'argent dans le budget de demain? C'est ce qu'on va voir. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait quand même 120 millions qui étaient promis sur 5 ans. Est-ce suffisant? Clairement, non. Il en faudrait probablement 10 fois plus. L'an dernier, là, les maisons d'hébergement ont dû refuser 10 000 demandes de femmes violentées qui cherchaient un refuge temporaire. Alors, imaginez, on a Julie qui est avec nous, qui pendant 22 ans a subi la violence d'un conjoint avec 3 enfants tout en travaillant. Bonjour, Julie.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, et vous?
Oui, je vais très bien aujourd'hui, oui, merci. Moi, mon point, c'est que pendant que je vivais cette violence-là, à plusieurs reprises, moi, je l'ai faite, j'ai signalé la police, ils l'ont amené en cour, puis bon, c'est épouvantable, mais là, le point où je veux en venir, c'est que moi, j'ai été au chaînon. J'ai été me réfugier là avec mes 3 enfants, où j'ai été bien reçue, des ressources, en tout cas des rencontres avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Tout ça, c'est beau. Sauf que quand on vit avec un homme comme ça, c'est un homme qui est contrôlant, c'est un homme qui contrôle tout, dont ton portefeuille. Alors, tu pars, tu t'en vas avec zéro sous. Il n'y a pas de services gouvernementaux ou autres qui nous aident financièrement. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu dois retourner chez toi parce que tu n'as plus d'argent, puis tu as besoin quand même d'argent. Eux, ils payent pas tout là-bas, là. Puis tu as des choses à rencontrer au bout du mois, fait que tu retournes dans ton milieu.
Ouais.
Tu sais, moi, je pense qu'il devrait avoir, je sais pas, on parle toujours d'argent, hein. C'est comme si on était des quêteux de gouvernement quelque part, mais ça, ce point-là fait que moi, je me suis ramassée 2 fois au chaînon et les 2 fois, je suis retournée à la maison malgré moi parce que fallait que je paye mes choses puis j'arrivais plus à payer. Puis moi, je travaille dans un hôpital et j'allais travailler, mais mes payes étaient déposées dans son compte à lui.
Et vous ne pouviez pas changer ça? Vous pouviez pas.
Avant que ça se fasse, ça prenait quelques semaines. Donc, là, j'avais pas de paye qui rentrait. C'est très difficile. Hein? On peut pas s'imaginer tout ce qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'a pas, parce que je pense que c'est du non-dit. C'est du non-dit. Il y a des choses qui se disent pas. Moi, je m'ai travaillé le matin avec des côtes cassées, une dent cassée, une oreille déchirée, une boucle d'oreille. Puis là, tu sais, on vit tellement des choses.
Et les collègues de travail le voyaient?
Oui. Les gens me disaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la porte d'armoire qui m'a ouvert dans, tu sais, paf. Ma boucle d'oreille arrachée, donc toute déchirée. Mais c'est mon petit qui m'a arraché ça hier soir. On a toujours des défaites. On trouve tout le temps des bonnes défaites, hein, parce que...
Parce qu'on a honte, sinon, Julie, c'est ça?
Moi, j'avais pas honte. J'étais plutôt humiliée, parce que les gens ont un jugement. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'en vas pas? T'sais, moi, si j'étais à ta place, là, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit j'avais 3 enfants. Moi, je m'en irais dans un et demi avec mes 3 enfants. Oui. T'sais, les gens nous jugent beaucoup. Les gens ne savent pas c'est quoi. Fait qu'on n'en parle pas. C'est plus ça. On a plus peur du jugement.
Ouais.
Et les gens sont là pour nous donner un paquet de conseils, puis ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Je comprends.
Les polices arrivent chez nous, ils partent avec le conjoint. Le lendemain matin, il faut se présenter en cours devant cette personne-là qui nous regarde avec des yeux. Mmh. Écoute, t'as tellement peur. Tu dis, moi, je vais relever ma plainte. Je vais relever ma plainte, ils vont me tuer.
Voilà, c'est ça. Mmh.
Mais moi, je trouve que s'il y avait un petit peu plus d'aide financière, de mon cas à moi, si j'avais eu quelque chose qui m'aurait gardé au chaînon, et mettons qu'ils disent, on va vous aider financièrement pendant 2 mois, là, ça m'aurait donné la chance de, de transférer mes payes, puis là, mes payes auraient été déposées, on aurait eu le temps de se revirer de bord,
Peut-être quelqu'un qui vous aide carrément sur votre dossier à faire cette transition. Merci beaucoup, Julie, de votre témoignage. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Nathalie Villeneuve est avec nous. Elle est coordonnatrice de la maison INA à Saint-Jean-sur-Richelieu, ex-présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. On lui a souvent parlé. Merci d'être là, Madame Villeneuve, ce matin.
Bonjour. Bonjour, Madame Maréchal.
On se souvient d'ailleurs, malheureusement, qu'en juin 99, il y a une dame, Ginette Roger, qui avait été tuée dans cette maison d'hébergement à Saint-Jean. Bon, parlons d'argent. Julie vient de le dire, si j'avais eu une aide financière directe là, pour m'aider, c'était son conjoint qui avait même le contrôle sur ses payes, là, qui était déposé dans le compte conjoint. C'est souvent ça. Hein? Ça m'aurait aidé. C'est de l'aide directe, c'est de l'argent. Il y a 2 rapports qui ont déjà été rendus récemment au gouvernement. Il y avait plus de 220 recommandations. Faudrait pas qu'on se prenne encore les pieds là, dans le tapis, puis qu'on s'enfarge sur d'autres rapports à venir, puis ça faudrait qu'on voit c'est quoi le problème. Je pense que c'est comme le CHSLD, ça me faisait penser à ça ce matin. Je me disais, mon Dieu, qu'on est donc long à bouger, alors qu'on sait ce qu'il faut. Faut juste se donner les moyens, Nathalie Villeneuve.
Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. On le sait, là, des gens formés, qui connaissent bien, qui sont là pour évaluer, on fait des recommandations. Donc, on n'est sûrement pas à côté de nos souliers. On n'a sûrement pas bien évalué. Donc, il faut prendre ces recommandations-là et regarder ce qu'on peut faire immédiatement. Pas demain, c'est hier qu'on doit regarder ce qui peut être fait rapidement. Pendant ce temps-là, il y a des femmes qui sont tuées. Puis, vous le disiez au début, 14 enfants sont orphelins de mère. Mmh. Puis, faut pas oublier, Madame Maréchal, que partout au Québec, il y a au-dessus de 100 maisons et que l'ensemble de ces maisons-là voient tout près, mettons, entre 80 et 100 femmes par année et autant d'enfants. Je veux dire, ce sont tous des noms qu'on pourrait écrire de femmes, d'enfants victimes qui ne se sentent pas toujours protégés. Alors, on doit mettre des choses en place et c'est plus que urgent.
Vous avez entendu les deux ministres rappeler que c'était la priorité de François Legault lui-même. Vous en pensez quoi de ça? Parce qu'on l'a souvent entendu de la part des gouvernements respectifs. Oui, c'est important, la violence conjugale, il faut y mettre un frein, on va y mettre les ressources, c'est prioritaire, mais ça fait juste empirer, là.
Oui,
mais ça ne peut pas être pire qu'en ce moment. Là. C'est une par semaine. Je veux dire, c'est à la fin de l'année, il va y en avoir 52.
Oui.
Là.
Oui, effectivement, vous avez entièrement raison. Moi, je pense que là, on ne peut plus mettre ça en dessous du tapis, puis on ne peut pas faire comme on va juste mettre une petite couche de crémage, puis on va faire semblant que c'est beau. Non. Puis M. Legault, sans prendre position, disait, il y a quelques semaines, « Hey, les gars, c'est assez, c'est lâche. » Non, c'est pas lâche. C'est une prise de contrôle. La violence conjugale, c'est une prise de contrôle. Puis il faut mettre des choses en place pour dire aux conjoints qui sont violents, ce que tu fais, c'est inacceptable et tu auras des conséquences. La dame qui parlait tantôt, le conjoint, il y a eu 7 femmes et il a toujours été violent. Et
il y a eu 1 heure de thérapie.
Oui, alors vous comprenez. Puis il faut dire aux femmes, bien, la protection, on va l'assurer. On prend ça vraiment au sérieux, puis on va mettre au centre de toutes nos préoccupations, là, la protection des femmes et des enfants. Bien évidemment, là, on n'est pas dans le Far West, puis il faut faire les choses correctement. Mais, puis vous le disiez tout à l'heure, des fois, on a l'impression qu'on est plus préoccupé par il faut protéger les droits des conjoints violents, mais qu'est-ce qu'on fait des droits, des libertés, d'intégrité des femmes puis des enfants qui vivent cette violence-là?
Sophie, tout à l'heure, là, qui vient de se faire hier, là, elle a perdu la garde de sa fille.
Oui.
Parce que là, son ex a dit, ben oui, c'est une mauvaise mère. elle s'est mise à boire un peu trop parce qu'elle nous l'a très bien expliqué. C'est une travailleuse de la santé, une essentielle en plus. Elle continue de travailler. Là. N'importe qui serait à terre après autant d'années, presque 10 ans de violence conjugale, à avoir peur pour sa vie. Elle a perdu la garde de sa fille et c'est son ex-conjoint violent qui l'a, alors qu'il l'a vu battre sa mère.
Ouais.
Moi, ça me dépasse, Madame Villeneuve, ça me dépasse.
Puis l'histoire de Sophie.
Ou Sophie, exact.
L'histoire de cette dame-là, c'est des histoires qu'on entend.
Mais moi, je connais bien le chaînon parce que je suis marraine. Et je peux vous dire, le chaînon, c'est magnifique. Mais le chaînon, c'est une goutte dans l'océan.
Oui.
C'est une ressource temporaire. Et c'est cette notion de temporalité. Là, c'est comme, c'est pas pour tout le temps. C'est tellement temporaire que les femmes sont obligées de retourner auprès du conjoint violent. Ils n'ont pas le choix. Fait que comment on peut faire, Nathalie, pour qu'elle soit pas obligée de retourner dans la gueule du loup, c'est vraiment ça.
Oui, oui. Ben, moi, je pense que, en fait, il faut mettre des choses en place pour que les femmes se sentent protégées.
Comme quoi?
Comme par exemple, lorsqu'une femme quitte un conjoint violent, on le sait que la violence risque d'augmenter. Donc, il faut mettre des choses en place, mettre des conditions, surveiller les remises en liberté de ces conjoints-là, surveiller que lorsque un conjoint a des conditions, il doit les respecter. Puis s'ils ne les respectent pas, il ne faut pas que ça prenne 10. C'est comme, il y a des femmes, là, ils ont des conditions, puis ils vont les texter 50 fois par jour. Mais on envoie ça aux policiers, puis ce qu'on se fait dire, ouais, mais tu sais, c'est juste des messages. Non, non, je sais que peut-être que dans le message, il n'a pas dit, je vais te tuer, puis je vais. Non, mais il n'a quand même pas respecté. Mais qu'est-ce que les femmes comprennent là-dedans? Ouais.
Justement, on va avoir une policière, commandante
exactement.
Du SPVM tout de suite après. Nathalie Villeneuve, vous restez avec nous. On revient tout de suite après ceci. Chantal nous appelle. Elle est en ce moment victime de violences conjugales. Bonjour Chantal, merci de prendre la peine de nous appeler. En même temps, vous vous dites, il n'y a pas question que je porte plainte, ça ne sert à rien avec le système qu'on a. C'est un peu ça?
C'est exactement. Ça ne fait pas grand-chose. Puis là, moi, ce qui me rentre le plus de... qui me dérange, il rentre encore en relation avec une autre femme. Moi, j'ai été victime, ça a pris 10 ans avant que je lève les pattes, là. Puis que je le réalise, parce qu'au début, tu mets ça, c'est moi, parce que c'est tellement un bon gars, c'est moi, je suis pas correct, je fais les choses pas correctement. Puis là, tu prends ton courage à deux mains, tu sacs ton camp avec rien, là, tu es reparti de zéro, pas de poil, pas de frigidaire, j'avais mon petit linge en main. Puis là, il est en train d'en rentrer un autre dans sa maison. Puis là, on peut pas rien dire, on peut pas déranger, on peut pas briser l'image de parfait monsieur, là. Là, j'ai l'impression que je fais quoi, là, moi, pour protéger cette femme-là, pour lui dire, pour l'aviser?
Bien, ça me fait penser à l'histoire de Marley Edouard, cette femme de 32 ans qui a été abattue d'une balle à la tête le mois dernier à Laval. Elle avait voulu porter plainte contre l'ex-conjoint de sa nouvelle blonde 2 jours plus tôt. Le gars, il n'a toujours pas été attrapé par la police, d'ailleurs, là.
Non, c'est ça.
Elle a voulu alerter, là, dire « Attention, ce gars-là, il est dangereux ». Je vous comprends, Chantal. Je vous comprends tout à fait.
C'est dur à dire. Là, tu fais quoi? Je fais quoi pour protéger cette femme-là?
Ben, c'est très bonne question. Et j'ai justement une commandante au SPVM qui est avec moi. Merci beaucoup, Chantal. Je vais lui poser votre question. Anouk Saint-Onge est commandante au poste de quartier 27. Elle est mandataire du dossier violence conjugale et intrafamiliale au service de police de la Ville de Montréal depuis 2 ans. Merci beaucoup d'être là, commandante Saint-Onge. C'est une bonne question que pose Chantal. Elle dit, moi, je le sais, là. Mon ex, il est violent. Il est encore en relation avec une autre. C'est sûr qu'il va la violenter. Comment je peux faire pour alerter? Parce que c'est ça que les ministres ont dit ce matin, là. Isabelle Charest, Geneviève Guilbeault, faut dénoncer, faut alerter, faut aider les victimes actuelles et les prochaines. Comment vous voyez ça, vous, Anouk Saint-Onge?
Oui. Bonjour. En fait, j'écoutais sa question. C'est effectivement une bonne question parce que, tu sais, ce qu'on veut pas non plus, c'est qu'elle, elle s'est sortie de cette relation-là, heureusement pour elle, puis de pas non plus se remettre dans la nouvelle relation de cette personne-là qui était décidément toxique. Comment en aviser la future conjointe? C'est certain, il y a tout l'aspect aussi de la confidentialité, mais moi, je vous dirais que, tu sais, je dirais à la dame, là, présentez-vous dans un poste de police, faites part de ça aux policiers. Puis le policier va trouver un moyen, si on peut, d'en aviser cette personne-là. Parce que, tu sais, il faudrait se poser la question, honnêtement. Puis j'ai pas d'emblée comme ça, là, j'ai pas la réponse à dire, tu sais, il y a les aspects, comme je dis, de confidentialité, des fois, qui, tu sais, qu'on est pris avec. Mais tu sais, ça reste que c'est pas acceptable, mais d'aller le dire dans un poste de police, c'est sûr qu'on va prendre son nom, on va prendre le nom de la personne, puis on va voir dans quelle mesure on peut alarmer ou, tu sais, être plus attentif.
Je pense que si c'est vous qui répondez au téléphone, ça risque d'allumer une lumière, mais si c'est un autre policier moins ouvert, moins au fait de ces choses-là, peut-être pas formé à la violence conjugale ou différents cas, peut-être que la plainte ou l'appel va rester entre deux chaises. Là. C'est beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont fait plainte, ils ont fait part de leurs problèmes, puis il n'y a pas eu de suivi ou ça n'a rien donné.
Bien, ça, en fait, je vous dirais, au SPVM, là, on a une structure en matière de violence conjugale là, depuis plusieurs années. Puis, tu sais, je peux pas parler pour les autres services de police. Je pense que, tu sais, la plupart font du bon travail. Mais tu sais, je vais vous parler de notre structure. Nos policiers, là, ils en font beaucoup d'interventions en violence conjugale. On a une procédure qui est connue. On a vraiment, tu sais, la structure avec moi qui est la mandataire. J'ai un policier qui travaille à temps plein sur le dossier de la violence conjugale. Fait qu'on a des agents VCI dans nos postes de quartier. Chaque poste de quartier a un policier ressource en violence conjugale. Fait que, honnêtement, je pense pas que la personne, si elle appelle dans un poste de quartier, qu'elle aurait pas une réponse. Là, on a vraiment une bonne sensibilité au SPVM à la violence conjugale.
Dites-moi, combien vous avez de dossiers de violence conjugale au SPVM en ce moment, à Nouk-Saint-Onge?
On a fait, tu sais, justement, on a fait récemment sortir nos statistiques de 2020. Puis en 2020, on a eu 7112, je dirais, victimisations. Donc ça inclut autant des dossiers d'accusation qui ont été soumis à la Cour, mais également des dossiers qu'on peut dire, on les nomme de querelles familiales, étant donné qu'il n'y a pas d'infraction criminelle. Donc c'est 7112 victimisations, donc dossiers, si on veut.
De violence conjugale. Important. Plus de 7000 dossiers de violence conjugale en ce moment au SPVM.
En 2020, oui.
C'est énorme.
C'est quand même assez important, je vous dirais.
Hey! Est-ce que vous diriez que c'est le genre de dossiers qui s'empilent, là, que vous avez jamais vu autant de cas comme ça? Est-ce qu'il y a comme une recrudescence? Parce que là, il y a le nombre là, qui nous impressionne. Ouais. Cette femme, en 7 semaines... Si la tendance se maintient, ça va être, cette année, ça va être probablement la plus violente de toutes les années envers les femmes. Est-ce qu'il y a une augmentation de la violence faite aux femmes?
Bien, tu sais, je vous dirais, en 2019, on avait eu 5608 victimisation au dossier, si on veut. Là. Donc, effectivement, cette année, on a eu une augmentation. C'est certain que la pandémie, tu sais, tout le monde le dit, là, c'est reconnu mondialement. Le confinement, tu sais, ça a exacerbé la violence envers les femmes. Donc, est-ce que c'est la seule, tu sais, explication? Je pourrais pas vous dire, mais c'est sûr que le confinement y a contribué grandement, j'en suis convaincue.
Ah oui, hein? Parce que les femmes étaient plus à la maison, parce que tout le monde est plus sénère, vous diriez, qu'est-ce qui intervient ici?
Bien, en fait, c'est sûr que, tu sais, dans une situation où on n'est pas en confinement, oui, il y a de la violence, mais, tu sais, il y a comme un certain, si on veut, échappatoire, mettons, le suspect ou la personne, l'agresseur, il peut aller travailler, mais là, tout le monde reste dans les mêmes pièces ensemble. Mmh. Tu sais, on s'entend, ça fait plusieurs mois qu'on est tous confinés. Donc, il y a moins aussi d'opportunités d'aller chercher de l'aide. Mmh. C'est surtout ça. Tu sais, puis le contrôle, l'individu qui est contrôlant va l'être encore plus. Donc, la victime, elle a moins d'opportunités d'aller chercher de l'aide qu'elle avait avant. Puis le réseau aussi, tu sais, on voit plus la famille, on voit plus les voisins. Donc, ça, c'est tout ça qui contribue, selon moi. Là, comme je vous dis, je n'ai pas une explication.
Je comprends tellement. Je vous garde encore une couple de minutes à Nouk-Saint-Onge parce que oui. Vous êtes commandante, responsable du dossier violence conjugale au SPVM. C'est important de vous parler puisque vous êtes la police. Puis là, plus de 7000 dossiers de violence. Je veux savoir comment vous gérez ça là, parce que, mon Dieu, si vous avez juste une personne qui gère ça dans chacun des postes de quartier, il faut aussi qu'on demande de l'aide pour vous aider. Là, ça n'a pas de bon sens.
Inquiétez-vous pas.
Oui, alors restez là, bougez pas. 514-790-9850. On revient tout de suite après. Anouk Saint-Onge est commandante au poste de quartier 27. Elle s'occupe du dossier violence conjugale et intrafamiliale au SPVM depuis 2 ans. Anouk, vous me disiez plus de 7000 dossiers de violence conjugale au SPVM en 2020. Comment vous arrivez à gérer autant de dossiers?
Ben, c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de policiers. Là, on est quand même un gros service de police. Nous, dans la structure, ce sont des sergents détectives dans les centres d'enquête qui font les enquêtes en violence conjugale. Donc, c'est 25 % de nos crimes de violence, la violence conjugale. Chaque dossier, donc le policier se présente sur un appel où la victime se présente au comptoir pour porter plainte. Puis, c'est les policiers qui font les premières démarches d'enquête, si on veut, là, recueillent la déclaration de la victime, s'assurent de sa sécurité. Puis, par la suite, le dossier est soumis aux enquêtes en priorité. Donc, il attendra pas là, ce dossier-là, il est vraiment prioritaire. Ça va être un sergent détective qui va prendre le relais, qui va recontacter la victime, qui va faire les accusations, qui va transmettre le dossier au DPCP.
25 %? On n'en revient pas des chiffres que vous nous dites ce matin à Nouc-Saint-Onge. Ça veut dire que c'est comme un dossier sur quatre, c'est un dossier de violence conjugale au SPVM?
Oui.
Mais là, l'avez-vous dit avant? Il me semble que c'est énorme.
Oui, c'est une réalité. Je vous dirais que les chiffres sont presque inchangés depuis 2016, là, si on veut, là, dans les dernières années. Là, c'est pas mal toujours dans les mêmes chiffres là, à chaque année.
Fait que depuis 5 ans au moins, on sait ça, mais on vous donne pas plus de moyens, puis vous n'êtes pas en mesure d'y mettre plus de moyens que ceux-là. Parce que 7000 dossiers, là, je comprends que vous pourriez me dire, nous, on n'a juste pas les moyens de les traiter tous. Puis on comprendrait, là. Puis il faudrait que...
Non, mais c'est pas ça que je vous dis. Non? Mais en fait, notre structure, tu sais, elle fonctionne. Honnêtement, puis tu sais, sans vous dire que est-ce qu'on est parfait, on est toujours à la recherche de meilleures pratiques, là, ça c'est clair. Mais je vous dis qu'en ce moment, ça fonctionne comme que ça a fonctionné les dernières années. Bien, c'est sûr, comme je vous dis, tous les services de police, on a tous certains enjeux, mais la priorité, c'est une priorité organisationnelle, la violence conjugale. Donc, puis honnêtement, j'ai vraiment le support de la direction dans mon dossier. Fait que, non, la structure, comme je vous dis...
Mais que la structure fonctionne, je vous crois. Il en reste pas moins que sur le terrain, il y a des femmes tous les matins qui se lèvent en se disant, aujourd'hui, est-ce que c'est la journée où mon ex ou mon conjoint va me tuer? Fait que, comment on peut faire pour... Là, vous en avez 7000, mais il y en a peut-être plein d'autres là, qui ne sont pas encore un dossier sur votre bureau. Comment on peut les atteindre, ces cas-là, avant mais que là, ça dégénère?
Vous avez raison. En fait, nous, on a 7000 dossiers, mais on s'entend là, qu'il y en a beaucoup plus que ça. Le chiffre noir en violence conjugale, là, nous, c'est la pointe de l'iceberg, je suis d'accord avec vous, mais tu sais, dans les dossiers qui arrivent à la police, là, puis c'est ça l'enjeu, c'est puis je le sais, on le sait, dans la dynamique de la violence conjugale, tu sais, de porter plainte, il y en a que ça peut prendre des années, c'est une réflexion, il y en a qui veulent pas porter plainte tout de suite. Des fois, on est appelé par les voisins, donc on va sur les lieux, mais c'est pas eux qui veulent porter plainte. Donc ça, c'est aussi l'enjeu. Fait que c'est sûr que nous, on a un travail aussi en prévention. Vous le savez, la police, oui, il y a l'aspect répression qu'on arrive après les faits, si on veut, mais on a un aspect prévention aussi. Puis on travaille beaucoup pour prévenir les saines relations amoureuses parce qu'en matière de violence conjugale, c'est un des éléments là, de prévention, là, prévenir les saines relations amoureuses. Fait que ça, ce sont nos agents VCI, comme je vous disais tantôt. On a un dans chaque poste de quartier. Puis, généralement, ils s'associent avec nos partenaires locaux pour faire des présentations, entre autres, pour prévenir les saines relations amoureuses.
Ouais,
il faut l'implication de tous.
Ouais.
Hein? Puis, tu sais, la police, c'est un des acteurs dans la lutte, si on veut, à la violence conjugale. Mais c'est sûr qu'on a besoin un peu de la population. Tu sais, on a besoin de tout le monde.
Oui. Merci, Anouk Saint-Onge. On se reparlera parce que j'ai tellement de questions pour vous. Puis, il nous reste une minute et demie. Je voudrais également me tourner vers Nathalie Villeneuve, qui est avec nous, coordonnatrice de la maison INA Saint-Jean-sur-Richelieu, ex-présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Après tout ce qu'on a dit, Nathalie... Bon, on essaye de faire avancer un petit peu les choses. Là.
Moi, je pense que c'est clair que dans les recommandations, il y a une demande de tribunaux spécialisés, il y a des demandes de cellules de crise, justement pour travailler en collaboration avec les policiers, avec les acteurs qui sont autour des femmes victimes de violences conjugales.
Ouais.
Moi, je pense que là-dedans, il y a des solutions, mais on doit avoir les moyens, puis on doit les mettre en place, ces moyens-là, et rapidement. Parce que moi-même, j'entends les chiffres de Mme Saint-Onge et je suis estomaquée d'entendre ça.
Et juste alors, à Montréal, c'est juste oui. Au SPVM. Là.
Alors, vous comprenez, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Puis on le voit, là, les femmes téléphonent parce qu'elles se reconnaissent puis elles ont peur de ce qui pourrait arriver. Donc, en ayant des moyens, justement, pour se concerter, pour se parler plus, pour travailler ensemble, pour, dans le fond, protéger ces femmes-là. puis les enfants. Je pense que les tribunaux spécialisés, ça aiderait beaucoup les femmes parce que c'est difficile de passer à travers le processus judiciaire. Ouais. Fait que, fort probablement que si on avait des tribunaux spécialisés, si on avait aussi des secrétariats pour la coordination de tout ça, je pense que ça nous amènerait ailleurs et rapidement.
Ouais. Et des escouades violences conjugales.
Oui,
dans
des
chaque...
cellules de crise.
Exactement,
oui.
Exactement. Oui. Merci beaucoup, Nathalie Villeneuve. Merci beaucoup.
Qui vous remercie.
Merci, Anouk Saint-Onge, commandante au quartier 27. Merci beaucoup. On va reparler de ce sujet-là, je vous le promets. Il y a tellement à dire. On s'arrête ici et on poursuit en deuxième heure.